bienvenue à mon invitée Monique Etienne. Bonjour.
Bonjour.
Ça fait plusieurs fois que vous venez sur notre antenne, mais c'est la première fois en tant que pour nous présenter ce premier livre, Le journal d'Anna, ma mère. Monique Etienne, vous êtes connue aussi pour être une femme militante, engagée. Vous avez été journaliste. Défendez aussi le droit des femmes, le droit de l'homme aussi, et notamment aussi France-Palestine.
La tolérance aussi, voilà. Les droits et les différences.
Voilà, vous êtes toujours une combattante. Ce livre, Le journal d'Anna, ma mère, c'est donc une transmission de votre mère, qui était elle aussi une femme militante, engagée.
Ma mère a toujours écrit, elle aussi, mais pour elle. Elle écrivait donc son journal quand elle était jeune, et puis à partir du moment où elle a été mariée, où elle a été mère, elle écrivait régulièrement ce qu'elle appelait ses dates, c'est-à-dire les dates importantes de sa vie. Donc la mort de ses parents, son mariage, nos naissances. Donc tous les ans, elle écrivait, elle faisait le point sur sa vie jusqu'à sa mort. Elle est morte, elle avait 90 ans. Elle est morte donc en 2013, et elle m'a toujours dit, et elle me l'a redit encore peu avant sa mort, qu'elle me confiait tous ses écrits. Donc c'était quelque part un signe. Ses écrits d'ailleurs, je pense que ça a ancré aussi en moi certainement l'amour des mots, parce que ma mère a toujours parlé. On n'est pas dans le secret dans la famille. Elle était au contraire dans la parole sur sa propre vie. On s'exprimait, il y avait beaucoup d'échanges dans la maison, et je crois que le récit qu'elle m'a toujours fait de sa vie a certainement ancré en moi et mon journalisme, c'est-à-dire la curiosité des autres et l'amour des mots et l'amour du récit des autres. J'ai eu envie à partir de là de transmettre sa vie, parce qu'elle a une vie qui est un peu symbolique, disons, des impasses, des souffrances, des drames du XXe siècle, et des combats aussi. Et puis, en même temps, elle m'a transmis cette nécessité de dire les choses. Et alors, par rapport à sa propre vie, peut-être qu'on en parlera plus, c'est un peu le sujet du livre. Elle est née, donc, en 1922, de parents qui étaient bretons. Un père breton, marin-pêcheur, Terre-Neuve, Mousse à 14 ans, un des plus pauvres de la commune, qui avait été un des premiers à aller à l'école laïque dans un pays extrêmement religieux en Bretagne, parce qu'il n'avait pas les moyens d'une part, et parce que l'arrière-grand-père en fait était plutôt socialiste. Et ma grand-mère, qui était fille de propriétaire terrien, qui était très catholique, très conservateur, et c'est une mésalliance, ils sont tombés amoureux, c'était une belle histoire d'amour. Ma grand-mère a été finalement reniée par sa propre famille au moment du mariage, et donc c'était deux apports. Ma mère a subi cet apport-là en 1930, et au moment du Front populaire, ma grand-mère, très croyante, très catholique, l'emmenait dans les manifestations croix de feu pour défendre la chrétienté menacée par les rouges, et mon grand-père manifestait aux côtés de la CGT dont il était adhérent pour défendre les droits des marins-pêcheurs et des travailleurs. Donc elle a vécu ces deux influences-là, et ça a été une richesse et en même temps une contradiction terrible que dans son enfance. Et puis ma grand-mère malheureusement est morte, ma mère avait 15 ans, et elle s'est retrouvée fille de marin-pêcheur seule dans la vie, puisque mon grand-père était en mer. Et c'était juste après le Front populaire, donc c'était 38, et 39, la guerre se déclare. La drôle de guerre d'abord, puis ensuite, 1940, les Allemands arrivent à La Rochelle, puisque donc mon grand-père avait quitté la Bretagne, parce que déjà, c'était les délocalisations, il y avait la crise de la pêche à la morue à Saint-Malo, donc il avait trouvé un embarquement à La Rochelle, et ma mère, finalement, a vécu toute sa jeunesse à La Rochelle, elle a grandi à La Rochelle et elle a vécu la guerre à La Rochelle. Elle était passée d'une fille de bourgeoise d'une certaine façon, puisque ma grand-mère l'amenait à la messe, elle était dans une des paroisses un peu chic de La Rochelle, puisqu'ils habitaient dans un quartier un peu résidentiel, sauf qu'elle habitait une baraque de pêcheurs en plein milieu des résidences des gens assez aisés. Et à la mort de ma grand-mère, elle est devenue la fille du marin-pêcheur, c'est-à-dire du jour au lendemain, il y a eu le rejet social, donc elle a eu à vivre ça aussi. Et ça l'a amenée en fait à une grande révolte contre la société, et ce qui fait que quand, en 40, les Allemands sont arrivés à La Rochelle, ben pour elle, elle ne voyait pas tellement la différence. Elle n'avait aucune formation politique. Sa mère l'avait toujours amenée dans les manifestations pour défendre la chrétienté. Elle a été amenée à fréquenter des Allemands parce que la seule personne qui l'avait recueillie, c'était une Bretonne aussi qui tenait un hôtel juste en face de chez elle. L'hôtel était réquisitionné par les Allemands et c'est la vie quotidienne. Au début, on fait comme si on ne voulait pas se parler et puis la vie amène qu'on se parle. Et en fait, elle est tombée amoureuse d'un Allemand et elle a eu une histoire donc importante autour de cela. Et dans la plus parfaite innocence et inconscience de ce qu'étaient les enjeux politiques actuels. Donc elle nous a toujours à la fois raconté cette histoire et à la fois après parlé de ce qui avait été pour elle le grand choc de sa vie et ce qui a ancré son engagement et son militantisme. Ça a été 1945 quand elle a découvert la réalité de ce qu'avait été le nazisme, de ce qu'avait été le génocide des Juifs. Donc ça a été fondateur aussi dans sa prise de conscience et elle s'est dit à ce moment-là qu'on ne pouvait jamais rester en dehors du politique, en dehors de ce qui se passe dans le monde, qu'on ne pouvait pas prétendre ne pas savoir que c'était sa responsabilité, en fait, de toujours maintenant garder les yeux ouverts et d'avoir l'esprit critique et de jamais accepter non plus toutes les intolérances et les rejets des autres. Et je crois qu'on est en plein dans le sujet aujourd'hui, c'est-à-dire l'anticommunisme de sa mère qui amène toutes les déviations qui ont amené le nazisme et les extrémismes à l'époque. Et puis, bien sûr, la haine de l'autre à travers le racisme et l'antisémitisme. Donc, c'est vraiment ce qui a fondé son engagement et ce qu'elle nous a toujours transmis. Et je crois que c'est ce qui a fondé moi-même mon engagement. C'est pour ça que je parle des transmissions. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de cette histoire, eh bien, elle nous a toujours, toujours enseigné d'être libre dans notre tête et d'être tolérant et d'être aussi engagé. Quand je suis née en 1950, je suis une enfant du baby-boom, j'ai vécu avec elle et avec mes parents d'ailleurs, qui étaient tous les deux très marqués par la guerre et donc engagés pour la paix, la guerre d'Algérie, qui a été très présente, mais mes parents se sont engagés dans la guerre d'Algérie et c'était plutôt rare à l'époque pour soutenir bon, en fait, le droit des Algériens à l'indépendance, avec des menaces de mort. D'ailleurs, ma mère a reçu des menaces de mort de la part de l'OAS. Ça a été toutes les luttes contre la bombe atomique, ça a été les luttes pour la paix et pour la justice sociale. Donc en fait, moi j'ai vécu, j'ai baigné dans cette atmosphère-là. Ma mère s'est engagée et a créé un mouvement, enfin a participé à un mouvement qu'on appelait mouvement mondialiste à l'époque, les citoyens du monde. Moi j'ai assisté grâce à eux à des congrès à l'âge de 10 ans, à Vienne ou à Oslo après à 15 ans, 17 ans.
Vous êtes fille unique ?
Non, j'avais un frère aîné. Nous sommes deux enfants. Alors ça c'est tout ce qui a créé son engagement et tout ce qui a moi accompagné ma vie d'enfant qui était aussi cette conscience du monde présent. Après ma mère, elle a vécu aussi d'autres chocs. Donc il y a eu le premier choc qui a été la mort de sa mère, la solitude, la guerre, les bombardements, tout ce qui a été un désastre de cette époque-là. Et ensuite, elle a connu mon père. Elle commençait à être heureuse et à penser qu'elle pouvait reconstruire sa vie, quelque part dans la sécurité, etc. Et juste après ma naissance, un an après ma naissance, elle a eu la tuberculose. Et à l'époque, la tuberculose, c'était très grave. Et donc, de nouveau, elle a vu sa vie basculer. Il a fallu qu'elle se reconstruise. Elle a été séparée de nous, c'est-à-dire que nous, on est partis chez mes grands-parents, puis après chez d'autres personnes. Donc moi, bébé, j'ai vécu ça aussi, cette espèce de... J'étais à peine sevrée, même pas sevrée, que j'ai été séparée de ma mère. Il a fallu que je vive cette séparation, même si je ne m'en rappelle absolument pas. Mais elle est certainement aussi importante dans moi, la construction de mon être. Et après, d'ailleurs, j'ai développé une espèce d'amour fou pour ma mère, qui était très belle en plus, hein. C'était une très belle femme. Et une espèce d'osmose et de fusion avec ma mère, en même temps avec l'impression qu'elle allait toujours m'abandonner d'une certaine façon. Donc il y avait toujours cet aspect-là. Donc je raconte un petit peu ça. Après la tuberculose, quand j'avais 6 ans, il y a eu un autre grand choc pour ma mère, ça a été la mort de son père. Mort brutalement la veille de ses 60 ans, de certainement ce qu'on appellerait aujourd'hui une rupture d'anévrisme. Ça a été pour elle quelque chose de terrible parce qu'elle adorait son père. Mon grand-père était une espèce de poète analphabète, mais poète et quelqu'un qui était un conteur, comme savaient l'être les Bretons. Et j'en ai un souvenir très fort, même s'il est mort, j'avais que 6 ans. Pour ma mère, ça a été une dépression. Moi, j'ai vécu la dépression de ma mère à ce moment-là, en même temps que la mort entrait dans ma vie. Donc ça a été aussi un moment fondateur pour elle et pour moi, d'une certaine façon. Là aussi, on s'est un petit peu rejointes. Et ensuite, il fallut encore de nouveau qu'elle reconstruise sa vie. Et c'est là qu'après, une fois que j'avais 10 ans et que nous étions quand même un petit peu plus grands, elle s'est vraiment engagée dans le militantisme et ça a été pour elle un moment d'épanouissement.
Alors, vous parlez pas de votre père pour l'instant. Qu'est-ce qu'il était, lui, pendant ce temps-là ?
Mon père, il était donc cheminot, hein, c'est pour ça qu'on a beaucoup voyagé et que je suis un petit peu de nulle part tout en ayant des racines quand même très fortes au niveau de la Bretagne. J'en parle dans le livre. Quelque part, vous savez que la Bretagne, c'est un peu le matriarcat breton. Parce que les femmes avaient l'habitude d'être des femmes fortes, puisque c'était elles qui devaient, finalement, ma grand-mère, c'était elle qui devait tout faire. Puisque mon grand-père était en mère, c'était elle qui éduquait ma mère, c'était elle qui devait faire vivre le foyer, c'était elle qui, tenait la culotte, comme on disait dans le temps. Mmh. Et ça faisait des femmes fortes, pas facile d'ailleurs. Ma mère avait une personnalité tellement forte que je crois qu'elle éclipsait certainement un peu mon père. D'autant qu'il n'était pas forcément assorti. Je ne pense pas que c'était une grande histoire d'amour. Je pense que ma mère a rencontré mon père à un moment où elle était fragile et où elle avait besoin de sécurité qu'il lui a apporté. Mais je pense qu'il y a... Moi, j'ai vécu aussi cette impression d'un couple désassorti. D'autant que, comme je vous le disais, ma mère était plutôt dans la parole et ne se privait pas de le dire. Donc... c'est vrai que mon père, pendant toute mon enfance, pas mon enfance, parce que j'aimais beaucoup mon père, mais l'adolescence, je me suis beaucoup, beaucoup opposée à lui. Et surtout, j'avais l'impression que c'était lui qui empêchait ma mère d'être une grande femme, héroïque, etc. Donc, j'ai été profondément injuste avec lui. C'était quelqu'un de très bon, quelqu'un de très humain, mais qui n'a pas eu malheureusement la capacité de s'opposer, enfin pas de s'opposer parce que c'était pas une question de s'opposer, il c'était un amoureux fou, il a été amoureux toute sa vie de ma mère, un amoureux malheureux quelque part, et pas facile dans cette histoire. C'est pour ça que j'en parle pas beaucoup, parce que je voulais surtout parler de l'histoire de ma mère.
Mmh. Il faisait quoi comme travail?
Il était chef de district à la SNCF. Mmh. Donc cadre.
Donc on va revenir à ce journal d'Anna, une belle transmission. Elle a su que vous alliez l'écrire ou vous lui en aviez parlé?
Pas vraiment, je vous dis, elle disait toujours qu'elle aurait voulu écrire sa vie. Et moi je lui disais, un jour peut-être ce sera moi qui l'écrirai. Mmh, donc voilà. D'accord. Mais je pense que c'était un signe quand elle m'a dit, elle m'a toujours dit, puis elle me l'a redit encore peu de temps avant sa mort, qu'elle voulait que j'aie ses écrits, donc je suppose que c'était un clin d'œil et un signe. Après... se pose en tant qu'auteur ou autrice plutôt la question de la légitimité. Mmh. C'est-à-dire que c'est vrai que je dévoile, parce que justement ce n'est pas du tout un livre militant, c'est pas un livre qui la glorifie, son passé militant, etc. C'est vraiment l'histoire d'une femme qui se bat dans son siècle, qui subit les chocs historiques du siècle, qui cherche à s'émanciper, qui cherche à vivre avec toutes ses contradictions, ses erreurs et ses souffrances. Et donc je dévoile des choses. Est-ce que j'avais le droit de les dévoiler? Je ne sais pas. Mm-hmm. Je me suis sentie légitime d'une certaine façon et puis embarquée en fait dans la réminiscence qui me remontait au fur et à mesure que je lisais, que j'écrivais, etc. Moi-même, j'avais envie de parler de cela parce que, alors j'ai pas parlé du troisième aspect fondateur. Mm-hmm. Pour nous deux d'une certaine façon, ça a été mes 68. Mais 68 est arrivé, moi j'avais 18 ans, elle en avait 55 ou quelque chose comme ça, ou 56. C'était pour elle, quelque part, en tant que militante, à l'époque engagée au PSU, Parti Socialiste Unifié, qui était un des partis autogestionnaires à l'époque et qui posait la question de l'autogestion et qui avait été très engagée pendant la guerre d'Algérie sur les questions internationales. En fait, pour ma mère, 68, c'était quelque part, nos idées allaient s'incarner vraiment dans la vie, on allait changer la vie. Et pour moi, 18 ans, c'était la révolution. C'était, on allait construire une autre société, l'avenir nous appartenait, haut les cœurs, on y allait, quoi. Et donc, je pense que toutes les deux, et mon père aussi d'ailleurs, mon frère, enfin, toute la famille était complètement impliquée dans mes 68. Et ensuite, moi, je me suis engagée, j'ai rencontré mon premier mari, on s'est engagé complètement. Moi, j'étais à l'extrême gauche, ma mère continuait à être au PSU, etc. Il y a eu des conflits terribles, comme toutes les familles ont vécu à cette époque-là. Moi-même, engagée dans la refonte totale des valeurs dominantes, de la tradition, j'ai remis en question la famille, j'ai remis en question... Et donc, ma mère a subi ce choc-là, c'est-à-dire d'un idéal que nous partageons, occasions, nous nous sommes souvent retrouvés opposés violemment. Et je pense que quelque part, moi-même, j'exorcisais un petit peu l'influence qu'elle avait sur moi et je coupais le cordon. Et pour couper le cordon, des fois, c'est violent. On n'était pas particulièrement tendre à cette époque-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'ai interrogé son couple. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais dans cette histoire? Pourquoi tu bouges pas? Pourquoi tu changes pas? Pourquoi je supportais plus l'autorité, etc. Donc, elle a beaucoup souffert. Et en même temps, je crois que je l'ai secouée. Et à partir de là, elle a commencé à vivre sa vie de femme. Donc à 50 ans, en fait, elle a rencontré quelqu'un, elle a eu une histoire, elle a eu des histoires, et de cette femme qui était finalement une femme assez traditionnelle, fidèle, elle est devenue une femme qui se cherchait, avec beaucoup de souffrance aussi, mais avec qui nous pouvions partager aussi beaucoup de choses. Moi, j'ai trouvé qu'elle était courageuse, et j'ai vraiment soutenu cette démarche. Et mon père, lui, eh bien, est resté dans cette histoire. C'est-à-dire que les choses étaient sur la table, mais ils sont restés ensemble toute leur vie. Ouais. Et donc, c'est impressionnant parce que, quelque part, c'était nos idées que nous n'arrivions pas à vivre. Eux, ils ont mis sur pied d'une certaine façon. C'est-à-dire, pour garder la famille, pour garder l'unité de nous tous, ils ont vécu comme un couple, mais sans le désir, sans la sexualité, mais un couple qui menait une vie de famille, qui avait des choses en commun, mais pas les histoires amoureuses. Donc, c'était étonnant et je trouve que c'était assez libéré. Alors, mon père a eu une ou deux aventures, mais bon, en fait, il a toujours été amoureux de ma mère. Mmh. Il a toujours aimé ma mère. Mais c'était intéressant cette période-là parce que, pour le coup, là, on se construisait ensemble d'une certaine façon et on en parlait. Et mon féminisme aussi, il vient de cette époque-là, parce que ma mère m'a toujours dit que ma grand-mère ne voulait pas d'enfant. Elle n'était pas une enfant désirée. Donc, pourquoi les femmes, déjà moi, petite, je me disais, mais pourquoi une femme ne peut pas choisir librement ses maternités? Ensuite, au moment de la tuberculose, ma mère, le médecin lui a dit, vous savez, madame, il ne vous faut plus d'enfant. Mais, sans solution. Et en fait, beaucoup de femmes de ma génération, baby-boom, etc., ont découvert qu'à cause de cette histoire, qu'on ne pouvait pas choisir librement ses maternités, les vies sexuelles de nos mères étaient ravagées, parce que c'était n'importe quoi. Bon, la méthode Ogino, mon frère est un bébé Ogino, c'était les retraits, bon, on imagine ce que ça peut faire, dans une période où aussi la sexualité était taboue. Donc, nos mères, elles ont été marquées par tout cela. Et c'est vrai qu'en 68, ma mère, avant, en 65, a été hôtesse de planning familial. À l'époque, le planning familial n'était pas une institution, hein, mais presque avant la loi Neuwirth, où on ne pouvait pas faire de formation sur la contraception, ma mère était hôtesse de planning et aidait les jeunes femmes, ou les femmes d'ailleurs, qui avaient des problèmes de contraception, à les aider pour la contraception et en même temps par rapport à l'avortement, tout en n'ayant elle-même pas de contraception, c'est la contradiction. Donc j'ai grandi comme ça, et à 18 ans, 68, on a posé toutes ces questions-là, et mon féminisme, il s'ancre là aussi, dans toutes ces générations de femmes. Et mon arrière-grand-mère, à 15 ans, qui était petite bonne chez mon arrière-grand-père, qui était beaucoup plus vieux qu'elle, a été violée par mon grand-père, et a été obligée de se marier. Donc c'était toutes ces générations de femmes dont moi j'hérite, qui ont ancré mon féminisme. Et quand en 70, il y a eu la création du MLF, dont j'ai fait partie à Bordeaux à l'époque, je faisais des études à Bordeaux, et que j'ai découvert en fait, à travers les études, les livres de Kate Millett, la revue Partisan, des noms comme clitoris, orgasme, etc., c'était pour moi complètement une révélation et complètement libérateur pour notre génération, et c'était complètement une parole libérée. Le féminisme à cette époque-là, c'était une fête de tous les jours d'une certaine façon. On se parlait entre femmes, de nous, de nos propres aliénations, comment on reproduisait un certain nombre de choses, on réfléchissait pour pouvoir s'émanciper. Et je crois que c'est de ce féminisme-là que je me revendique, et non pas d'un féminisme victimaire, entre guillemets. Mais c'est toute cette histoire-là dont ma mère aussi est porteuse.
Donc un livre, j'imagine que vous avez mis beaucoup de temps à l'écrire, puisque faire la synthèse un peu de ces écrits de votre mère qui est née donc en 1922, oui. Décédée à l'âge de 90 ans.
Alors il y a eu d'abord tout un grand temps de classement, de lecture, de choisir les passages, puisque donc dans le livre, c'est un peu en forme de triptyque, il y a à la fois le récit biographique, mais qui n'est pas vraiment une biographie, c'est plutôt des réminiscences, enfin c'est éminemment subjectif forcément, hein. C'est moi mon interprétation de la vie de ma mère d'une certaine façon, même si ça s'appuie sur du factuel. Ensuite il y a des extraits de ses journaux, entre autres son journal de guerre qui est très intéressant, mais ensuite toutes les dates importantes de sa vie, et puis donc des extraits à chaque fois, et puis moi, ce que j'ai appelé en aparté, c'est-à-dire comment moi j'ai vécu tout ça. Comment j'ai vécu par exemple son histoire pendant la guerre, puisque donc elle m'a élevée avec cette liberté, cette volonté de regarder en face. J'aurais aimé que ma mère soit une résistante, elle n'était pas une résistante, donc j'ai essayé de comprendre comment et pourquoi elle avait été dans cette histoire avec les Allemands. Ensuite, effectivement, comment moi j'ai vécu le couple de mes parents. Comment j'ai vécu après son émancipation, ses histoires d'amour et son engagement, parce que son engagement a été quand même très important et fondateur dans ma vie. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires qu'elle invitait pour des soirées et qui venaient dormir à la maison. C'était très important. Et mon engagement pour la Palestine, parlons-en, parce qu'en 67, donc... Moi, j'étais justement marquée par tout ce qui avait été le génocide des Juifs. Et donc, en 67, quand il y a eu la guerre des six jours, spontanément, eh bien, forcément, j'ai été à La Rochelle soutenir la communauté juive de La Rochelle, pensant qu'on voulait mettre les Palestiniens et voulait chasser une fois de plus les Juifs de leur terre. Et peu de temps après, ma mère organisait des week-ends internationaux et invitait des étudiants étrangers à parler de leur pays.
Donc très jeune déjà, vous étiez...
Oui, j'avais 14-15 ans.
Engagée aussi par rapport à la Palestine.
À 17 ans, oui. J'ai commencé parce que j'ai découvert le problème palestinien grâce à un week-end international que ma mère organisait avec... Et j'ai eu la chance de rencontrer donc Ezzedine Alcala, qui malheureusement a été un des représentants de l'OLP en France, qui a été assassiné à Paris, mais qui était étudiant à ce moment-là à Poitiers et qui m'a expliqué ce qu'était le problème palestinien. Et là encore, je me suis dit, mais finalement, j'avais pas les yeux ouverts, j'avais pas l'esprit critique. Une fois de plus, je me laissais avoir par le sentiment, c'est-à-dire que spontanément, j'étais du côté des Juifs parce qu'il y avait eu le génocide des Juifs, mais qu'en fait, il y avait bien une spoliation de terres par les Palestiniens. J'ai découvert ce problème-là à 17 ans, et ça a ancré encore un peu plus, comme avait dit ma mère, d'avoir l'esprit critique et toujours les yeux ouverts, et de jamais s'emballer dans l'affectif d'un problème avant d'avoir compris ce qu'il y avait derrière. Et ça a fondé aussi mon engagement à la fois avec la Palestine, puisque après j'ai été faire mes études à Poitiers et j'étais avec Ezzedine à l'époque, qui était représentante des étudiants palestiniens en France. Et donc j'ai continué à être solidaire de la Palestine tout en dénonçant l'antisémitisme, parce que j'ai été beaucoup marquée par effectivement ce qu'avait été le génocide des Juifs. Je me souviens du choc du film Nuit et brouillard de René, que j'ai vu, j'avais 10 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est des choses qu'on n'oublie pas et qui restent ancrées dans mon engagement.
Un livre, on a l'impression que ça ne suffirait pas à raconter tout ce que vous pourriez raconter. Est-ce qu'il y aura une suite ?
Alors, il y aura... Non, là, je suis en train de travailler. Enfin, j'ai fini un autre manuscrit qui sera plutôt sur... C'est étonnant parce que je l'ai fini au moment où la pandémie du Covid arrivait. Alors ça s'appuie aussi bien sûr sur ce que j'ai vécu, sur mon vécu, mais c'est un roman, c'est lié à l'histoire du sida. Et justement à ce mouvement communautaire auquel j'ai participé après dans les années 70, qui était un peu l'ancêtre aussi de ce qu'on vit aujourd'hui quand la jeunesse parle d'un autre mode de vie, de l'écologie, etc. C'était aussi fondé un peu là-dessus. Donc c'est plutôt ce roman, ça s'appuie sur ce qu'était la maladie du sida, à travers l'accompagnement donc d'un ami à moi qui est mort du sida, et de ce qu'on avait voulu vivre, de ce qu'on avait voulu changer, et de ce que le sida transformait et amenait de tragique dans nos vies. Voilà, c'est un peu sur cette question-là. Voilà.
Monique Étienne, merci d'être venue nous présenter donc ce nouveau projet. Et bien sûr, le journal d'Anna, ma mère, aux éditions Les Moissons. On le trouve
partout. Il est à la ruelle, hein, et puis on peut le commander aussi sur les sites littéraires, à la FNAC, dans les centres Leclerc, enfin, etc. Il y a plusieurs façons de se le procurer. Bien sûr, il sort à un moment très difficile. Il devait sortir en mai, parce que c'est le lancement aussi d'une nouvelle collection littéraire à l'intérieur du groupe La Geste, qui est une édition régionale importante en Poitou-Charentes, mais qui diffuse un peu partout en France. Il devait sortir en mai, c'était un bon moment, et malheureusement, il y a eu la pandémie. Donc il sort en pleine sortie littéraire, donc il a peu de chances d'émerger. D'où l'importance d'ailleurs de le commander ou de l'acheter, parce que plus il y en aura qui seront diffusés, mieux ce sera pour l'avenir du livre, et puis oui. Peut-être pour un autre livre.
Et puis un livre qu'on peut recommander à toutes les femmes, et pas seulement.
Et pas seulement.
Voilà, oui. Portrait oui. De femme de votre mère, vu par vous, avec votre patte à vous aussi. Donc très intéressant. Le journal d'Anna, ma mère, aux éditions Les Moissons, que vous pouvez retrouver donc partout. Merci Monique Étienne, bonne journée, à
Merci.
Bientôt. Au revoir.